Et ce matin, je vous emmène au marché de Villeurbanne, juste à côté de Lyon.
Aurélie Spèze, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de Villeurbanne. Hier, vous étiez avec Antoine Lee à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, on tire une diagonale et on se retrouve dans le Rhône, juste à côté de Lyon. Villeurbanne, Villa Urbana, désigne en latin une belle maison de maître au milieu des champs agricoles. C'était environ 50 ans avant Jésus-Christ. Villa Urbana est devenue Villeurbanne et les maisons de maître ont laissé place aux gratte-ciels édifiés pour les ouvriers. Dans les années 30, on voulait du grand, du beau, du fonctionnel. Alors ici, on a imaginé et édifié une villa futuriste où les ouvriers seraient les maîtres de leur cité. Les gratte-ciels de Villeurbanne, c'est une histoire parallèle et verticale. Ces tours qui nous entourent ont poussé en 1927, juste 3 ans après la construction de l'Empire State Building. C'était décidé, on allait faire de la banlieue de Lyon notre New York à nous. Certains l'appellent Gotham City ou Métropolis. Et quand on prend le métro et qu'on descend à la station gratte-ciel, ça fait sourire. En arrivant, j'ai discuté avec Fabrice, le gars de l'hôtel. Je lui disais que j'avais l'impression d'être dans une bande dessinée rétro-futuriste ou dans 1984 d'Orwell. Et il m'a dit « Ouais, ici, t'es un peu en Russie soviétique aussi. Hein. Ces gratte-ciel, on les adore, mais avoue, ils font flipper quand même. Le soir surtout, quand ils allument les lumières bleues. Mais non, n'aie pas peur, Fabrice. Elle est ici, l'utopie ouvrière, concrète, solide et saine. » C'est la ville idéale, elle est pratique et populaire. On se réveille le matin en sifflant pour partir au boulot. Mais soudain, l'inquiétude de Fabrice me traverse. Que se passe-t-il à Gotham City quand ils allument les lumières bleues? Nous, on va élucider tous les mystères de Villeurbanne avec nos invités. Et on est ici, sur France Inter, à la terrasse de chez Bétan. C'est une institution au pied des gratte-ciels, juste à côté du marché. Vous êtes avec nous. Bonjour, Aliénor Wagner.
Bonjour.
Vous êtes doctorante et vous travaillez sur une thèse et sur l'histoire sociale des gratte-ciels à travers les habitants.
C'est ça.
Vous êtes avec nous aussi. Bonjour Isabelle Pestre.
Bonjour.
Vous êtes hôtesse de caisse au carrefour des gratte-ciels depuis 25 ans.
Oui, exactement.
C'est un petit carrefour.
Petit, il est considéré comme un hyper, mais c'est le plus petit hyper de France.
Le plus petit hyper, c'est rigolo. Comme.
C'est rigolo. Oui, oui, il fait 2500 mètres carrés.
Et vous êtes avec nous. Bonjour François Bétan.
Bonjour.
On est chez vous ici, dans cette pâtisserie que tout le monde connaît.
Ben oui, écoutez, ça fait quelques années que nous sommes installés. Mon grand-père est venu en 1935, donc en effet, depuis ces années-là, ça fait quelques clients qui sont passés chez nous.
Merci de nous recevoir.
Merci et bienvenue.
On est au pied de ces gratte-ciels, chez vous, François Bétan, à l'ombre des arbres, sur cette avenue Henri Barbusse, qui est une avenue piétonne, qui est l'artère principale, on va dire. C'est l'endroit où tout se passe.
Oui, c'est effectivement le lieu de l'hypercentre de Villeurbanne avec la concentration de toutes les activités commerciales, mais pas que, administratives, artistiques, culturelles, sportives, voilà.
Et vous êtes bien sur France Inter, ici, au quartier des gratte-ciels de Villeurbanne. On va écouter un peu de musique et on se retrouve chez vous, François Bétan.
J'adore la musique, j'ai des goûts très éclectiques qui peuvent surprendre d'ailleurs.
Vous aimez le rock?
Oui.
Vous connaissez The Black Keys?
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous annoncer le disque qui va suivre, programmé par Chewbacca?
Chers auditeurs, nous allons écouter The Black Keys, Calling Kingsnake.
Merci.
Crawling kingsnake, crawl up on your door, crawl up to your.
êtes bien sur France Inter, au marché de Villeurbanne, en plein milieu du quartier des gratte-ciels.
À Lyon-Villeurbanne, la nouvelle cité des gratte-ciels vient d'être achevée. Six groupes d'habitations de 11 et 19 étages, alimentés par le chauffage urbain et pourvus chacun de la TSF par simple connexion avec une centrale de distribution. C'est une belle et neuve cité qui vient de s'élever et dont les Lyonnais ont tout droit d'être fiers.
Aliénor Wagner, rebonjour.
Rebonjour.
On a entendu une petite archive, une archive d'actualité de 1934. On entend « c'est une belle et neuve cité qui vient de s'élever ». C'est une fierté aussi pour la région lyonnaise, portée par un maire, Lazare Goujon, maire socialiste SFIO. Et on pourrait croire que c'est un projet communiste vu la physionomie de ces immeubles. Mais pas du tout, il y a eu une petite guéguerre entre les socialistes et les communistes quand ce projet de construction est né.
Oui, en effet, donc c'est un maire socialiste qui a réalisé une utopie socialiste. Et les communistes, qui étaient quand même forts à ce moment-là, ont énormément critiqué ce projet, surtout pour des raisons de budget et puis des raisons électorales. Hein. Tout le monde voulait la mairie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu une petite guéguerre. Et en 1935, les communistes ont remporté la mairie et donc ont été à la fois maintenant propriétaires de ce quartier. Les communistes disaient aussi que c'était des tours de carton et que du coup remettaient un petit peu en question le confort et également le fait que ce soit destiné à des populations plutôt ouvrières, en disant que les premières personnes qui ont habité ces gratte-ciels étaient plutôt des personnes plutôt de la classe moyenne.
C'était pas assez populaire pour les cocos.
Exactement, c'était pas assez populaire pour les cocos. Et ce qui est vrai, c'est qu'il fallait payer un loyer, malgré des loyers très bas, il fallait les payer.
Mais comment vous expliquez, Aliénor, cette architecture qui quand même ressemble à une architecture soviétique, hein ? Quand on arrive, c'est la première chose qu'on se dit. On se dit, ok, utopie ouvrière, utopie sociale, mais il y a une petite sensation de Gotham City, d'art totalitaire.
Alors, c'est juste aussi qu'il faut se replacer dans la mode de l'époque des années 30, où c'est une architecture avant tout moderniste et hygiéniste. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est de la lumière, de la simplicité. Et c'est pour ça qu'on a cette impression un petit peu, du coup, de référence au socialisme du bloc de l'Est.
Oui, cette référence presque aussi fasciste italienne et les architectes futuristes italiens.
Mais c'est plutôt l'architecture des années 30 avec des éléments art déco. Donc c'est des éléments de décoration qui sont très simples avec des formes géométriques. Ça peut aussi faire référence complètement aux États-Unis.
On est 3 ans après la construction de l'Empire State Building. Ça veut dire que Lazare Goujon, le maire de l'époque, quand il imagine ces gratte-ciels et cette ville dans la ville, il rêve l'Amérique.
Oui, il y a cet aspect-là, et cet aspect qui va se retrouver dans les aspects techniques de la construction. On va utiliser des structures en acier qui vont ensuite être remplies de briques et qui vont permettre de monter très haut par la légèreté des matériaux. Et ça, c'est quelque chose qui est états-unien, des États-Unis.
On les appelle les gratte-cielleux. Ils s'appellent eux-mêmes les gratte-cielleux. Ça montre quoi ? Ça montre l'attachement au quartier ? L'identité d'un quartier ?
Bah oui, tout à fait. Et puis, le fait que ce soit devenu un symbole où les gens viennent aussi passer du temps. Les gratte-ciels, les deux tours des gratte-ciels qui sont au nord de l'avenue Henri Barbus.
Juste derrière nous, là, qui sont un peu le World Trade Center de Lyon.
Ces deux tours qui montent et qui font un petit peu l'entrée de ce quartier vont être le symbole de la ville de Villeurbanne. On les retrouve sur les cartes de transport en commun de la métropole lyonnaise. Enfin, c'est vraiment un symbole important.
Et cette identité graphique, le beau... Ce qu'a voulu amener à Lazare Goujon et aussi l'architecte Maurice Leroux, c'est apporter de la beauté pour les ouvriers, habiter dans du bel ouvrage. Qu'est-ce que ça a changé ?
Ici, on leur fait un centre-ville où on va leur donner des logements à la fois confortables, hein, parce qu'on a parlé de on a entendu dans la petite capsule le chauffage urbain. Et donc il y avait du chauffage dans tous les appartements, de l'eau chaude, des cabinets individuels. Et ça, c'était des éléments de confort hors du commun dans les années 30, surtout pour des populations ouvrières. Et les palacés dans centre-ville, c'est un symbole politique où on veut faire de ces populations ouvrières, quelque part, le centre d'une commune. Et c'est aussi un peu une différence vis-à-vis de Lyon, qui est considérée comme bourgeoise, alors que Villeurbanne va être ouvrière et populaire.
Et c'est intéressant ce parallèle avec ces 50 ans avant Jésus-Christ, où Villa Urbana, c'était ces belles maisons de maîtres construites sur des champs agricoles. Et tout d'un coup, les ouvriers deviennent les maîtres ici.
Oui, tout à fait. Derrière la mairie, se trouve le Palais du Travail, donc où on va célébrer aussi les ouvriers. Il y a aussi dans ce Palais du Travail une piscine parce que la santé publique, ça passe par divers aspects, le sport, la médecine, mais aussi la culture. Donc il y a un théâtre et surtout il y a aussi des salles de réunion pour les syndicats. Donc dans le projet, il y a l'idée que les ouvriers doivent s'organiser de manière confortable pour aussi travailler et lutter pour leurs droits.
On les voit donc là, ces gratte-ciel, on voit cet ensemble en terrasse, c'est très ouvert.
Alors c'est des immeubles assez hauts, donc qui vont jusqu'à 11 étages. Il y a ce qu'on appelle des redans, c'est-à-dire des espèces d'espaces qui sont reculés et des façades qui sont plus en avant. Et donc ça va faire comme un peigne quelque part.
Oui.
Et donc ça, c'est
pour... cranté.
Exactement. Ces petits crans permettent de faire rentrer la lumière et l'air dans tous les logements.
Ce sont les premiers gratte-ciel de France ?
Oui. Alors c'est en plus, ça a été longtemps les bâtiments de logements les plus hauts de France.
Est-ce que vous pourriez habiter là, vous, Aliénor Wagner ?
J'habite pas très loin.
Vous habitez où ?
J'habite à Villeurbanne aussi, à un arrêt de métro qui s'appelle République.
Vous n'avez pas l'accent de Villeurbanne ?
Non, 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 j'ai grandi dans le sud à Montpellier.
Qu'est-ce qui vous plaît à Villeurbanne, à vous ?
Pourquoi
vous vous êtes installée là, précisément ? C'est pas anodin ?
C'est pas anodin, en effet. J'ai beaucoup aimé Villeurbanne parce qu'il y a une certaine mixité, quelque chose peut-être de mon côté... du sud, que j'ai retrouvé où, dans le sens où les gens investissent l'espace public, parlent dans la rue, prennent le temps, et ça m'a beaucoup plu.
C'est un peu ce qu'on fait ici, avec ce micro, on investit l'espace public et on discute.
Exactement.
Ce côté sud, vous en parlez, est-ce qu'on peut dire que c'est un village ici ?
Je pense qu'on peut dire que les gratte-ciel sont un village, ouais.
François Bétan, on est bien chez vous ?
J'espère, on fait tout pour.
Vous êtes le boss ici ?
Bah oui, depuis quelques années, et encore pour quelques années d'ailleurs, parce que je confirme tout ce qui vient d'être dit, et on est bien au gratte-ciel, donc on y reste.
Au pied de ces gratte-ciel, François Bétan, vous êtes descendant de toute la famille Bétan. La famille Bétan qui est arrivée ici en 1935, je crois, vos grands-parents ?
Mon grand-père, mes grands-parents, Antonia et Albert, se sont installés ici en 1935. Les gratte-ciel étant livrés depuis un an, puisqu'ils ont été achevés en 1934. Et à l'époque, il avait le choix en dernier lieu, en dernier recours, entre deux implantations, l'une dans le 6e et les gratte-ciel. Donc le pari, c'était soit je reste dans un quartier établi, consensuel et sans risque, soit je parie d'aller sur un lieu
populaire,
inconnu à l'époque.
Vertigineux, quoi.
Vertigineux, dans lequel aucun commerce n'est encore installé, puisque quand il est venu, il était le troisième à s'installer. Il y avait une brasserie. Mais il a fait ce choix et c'est un bon choix puisque depuis toutes ces années-là, le quartier perdure, s'embellit, s'amplifie, voilà.
Il devient même un modèle architectural, ouais. Les gens se ruent ici.
Oui, complètement. Et au début, je me souviens, il nous a souvent raconté, photo à l'appui, que ces grosses périodes d'activité, c'était le dimanche. Les gens venaient voir ce quartier, comme nous d'ailleurs, enfants, on allait voir la Part-Dieu. Quand la Part-Dieu, je me souviens, on allait à Lyon, la Part-Dieu, c'était l'endroit incroyable qu'il fallait aller voir. Et à l'époque, dans les années 30, avant la guerre, les gens venaient au gratte-ciel visiter cette curiosité architecturale. Et les gens avaient la tête en l'air, regardaient, etc. Et lui, il me racontait, il me disait, je vendais tant de choux chantilly le dimanche, etc. Alors que la semaine, il faisait rien du tout.
Donc vous aviez un papy avant-gardiste ?
Oui, bah, il a toujours été entrepreneur. Et en tout cas, il a fait le bon choix.
Et vos parents ont repris la boutique ici chez Bétan, la pâtisserie. Et vous, vous avez à votre tour fait perdurer l'institution.
Voilà. Mes parents sont arrivés en 1965.
Vous êtes né ici, François ?
Je suis né.
Où ?
Alors je suis né au-dessus de la boutique. On a des locaux qui actuellement sont nos laboratoires. On voit les fenêtres ici qui donnent sur l'avenue. Donc mes grands-parents ont habité ici. Mon père et mon oncle sont nés ici. Quand mes parents sont partis, j'ai pris avec mon épouse la suite dans cet appartement. Et mes trois enfants sont nés ici aussi.
Est-ce que vous vous sentez gratte-cielleux, François Bétan ?
Ah oui, non seulement je le dis, mais je le revendique, puisque...
C'est une identité ?
C'est une identité forte. Moi, j'ai un très fort sentiment d'appartenance à ce quartier, à sa vie, à sa culture, à sa population. En plus, on a la chance de vendre du plaisir, de vendre de la joie de vivre, de vendre...
Des sucreries.
Voilà, des sucreries. Donc, les gens qui viennent chez nous sont dans des dispositions agréables. Et voilà, donc moi, tout ce qui a trait à l'histoire et ce que je viens d'entendre me ravit, parce que j'en suis très, très proche.
Et vous êtes là, avec nous, Isabelle. Je vous présente Isabelle Pestre, une ouvrière, hôtesse de caisse, caissière. Qu'est-ce qu'on dit, Isabelle ?
Oui, on dit hôtesse de caisse maintenant, tout simplement.
Vous vous considérez comme une ouvrière de chez Carrefour ?
Oui, complètement. Complètement. En termes de salaire, je pense que oui. Les salaires ne sont pas très hauts. On est à temps partiel. Maintenant, les temps pleins, ça n'existe quasiment plus, quoi. Donc, c'est du temps partiel non choisi, on va dire.
Vous êtes venu avec nous, on est à la terrasse de chez Bétan, au carrefour de toutes ces rencontres ici, au quartier des Gratte-Ciel, à Villeurbanne. Et on va parler de Carrefour avec vous.
Oui, bah oui, parce que Carrefour Villeurbanne est à la station métro des Gratte-Ciel et en plein cœur presque de Villeurbanne, effectivement.
Et vous avez mis votre polo bleu avec le sigle Carrefour. Pourquoi vous avez mis ce polo ? Vous auriez pu venir en civil ?
En fait, c'est une fierté pour moi, mon métier. Ça me plaît, donc même de me promener dans la rue en tenue, ça ne me dérange pas. Quoi. Qu'on me reconnaisse hôtesse de caisse ou caissière, peu importe le terme choisi, je l'assume complètement.
Alors Isabelle, ça fait 25 ans que vous travaillez dans ce carrefour des Gratte-Ciel. Et les gens disent que c'est un carrefour pas comme les autres. Ils disent que c'est un carrefour à taille humaine, un carrefour familial. Et les caissières, elles sont plus que des caissières.
Oui, complètement. En fait, on est une grande famille. Il y a une ambiance particulière dans ce magasin. Il y a une bonne entente entre nous. On est solidaires. S'il y a besoin de faire un échange d'horaire, on n'hésite pas. Certaines sont devenues même des amis, quoi. Donc certaines ou certains, puisqu'on a des collègues de plus en plus masculins. On a tendance à dire toujours caissière, mais
c'est vrai.
Maintenant on dit hôte et hôtesse de caisse, comme ça, ça règle le problème.
Vous pensez qu'il y a un esprit Villeurbanne qui perdure dans ce carrefour ?
Oui, oui, je pense, effectivement, avec une clientèle fidèle et qui est là parfois deux à trois fois par jour.
C'est qui cette clientèle ?
Alors essentiellement une clientèle âgée, donc des personnes qui ont besoin certainement de contact, qui vont choisir leur caissière.
Ah bon ? Choisir leur caissière ?
Ah oui, complètement. On arrive à se constituer notre propre clientèle. Bah, on a des clients qui vont préférer faire la queue un peu plus longtemps, mais pour passer vers telle ou telle caissière.
Pour passer avec vous, Isabelle ?
Par exemple, en particulier. Mais bon, je ne suis pas la seule.
Alors, c'est qui vos clients chouchous ?
J'ai des petites dames qui règlent, par exemple, par chèque et qui passent exclusivement vers moi pour pas que je leur demande leur pièce d'identité parce que je les connais personnellement par leur nom de famille. Vous avez des clients qui viennent de perdre leur femme, qui viennent se confier à vous et qui passent et qui versent une petite larme au moment où ils passent à votre caisse en disant « Oh là là, ça me fait de la peine quand je passe à votre caisse » parce que ma femme, elle me disait « Faut passer vers la petite dame là » et ça les émeut quoi. Enfin...
Est-ce que vous vous faites draguer à la caisse ?
Oui, ça arrive et on m'appelle encore mademoiselle. C'est un petit côté sympathique aussi.
Est-ce que vous avez rencontré votre chéri là-bas, au travail ?
Pas directement au travail, mais il est venu me draguer au travail et me donner son numéro de téléphone au travail.
Alors tout ça a l'air d'être un monde un peu merveilleux, ce petit carrefour familial. Ah !
Mariage.
Événement.
Mariage.
Qu'est-ce qui se passe ?
Très beau mariage.
Traditionnellement, l'avenue est un bel endroit pour les mises en scène de mariage, et pas que les mariages d'ailleurs. Là, on vient de voir une belle sortie de mairie des mariés en vélo, avec un cortège en vélo, c'est magnifique. Mais c'est tout à fait l'esprit des gratte-ciel.
Il y a quelque chose de poétique, hein, Isabelle.
Ah oui. Oui, complètement, avec la mariée qui était assise en Amazon devant le vélo, là, c'était chouette.
Il y a un petit côté douaneau.
Oui, oui, complètement, il manque le noir et blanc.
En couleur, c'est bien aussi.
C'est bien en couleur aussi avec le beau soleil.
Isabelle, on parlait de votre travail au carrefour de Villeurbanne. Ça a l'air d'être un monde assez joyeux, assez familial et solidaire, mais il y a quand même un bémol. Vous avez fait la grève avec vos collègues et la BAC est venue vous bloquer quand même.
Oui, ben, on avait toujours un peu les mêmes revendications qui sont les hausses de salaire notamment. Et effectivement, ben, on a voulu barricader en mettant des caddies à la renverse et en se posant dessus pour empêcher les clients de rentrer. Ben, la BAC est venue nous déloger.
Vous avez été entendu ou pas du tout ?
Non, pas du tout, parce que les négociations avaient déjà été signées. Donc 0,9% d'augmentation de salaire, c'est vraiment léger, quoi.
Pendant la pandémie, vous étiez quand même très, très exposé et... On aurait pu vous remercier avec une valorisation des salaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire au micro de France Inter si le patron de Carrefour vous écoute ?
Eh ben, que ça serait bien qu'il entende ces revendications salariales, vraiment. parce que bon, ben, Carrefour en plus a fait un très bon chiffre, le meilleur chiffre pour l'année 2020. Si la répartition pouvait être un peu plus juste, on se donnerait encore plus à fond dans notre métier.
J'aimerais bien que vous soyez mon hôtesse de caisse.
Ah ben, avec plaisir, vous venez faire vos courses à Carrefour Villeurbanne et choisissez-moi.
Et il nous a rejoint, Patrice Papelard.
Bonjour.
Tout le monde connaît Patrice Papelard, vous le connaissez, oui. François ?
Bien sûr, il va vous dire mieux que moi ce qu'il est capable de nous faire pour embellir cette belle avenue sur certains temps forts de l'année.
Aliénor Wagner, vous connaissez Patrice Papelard ?
De nom, mais on se rencontre pour la première fois aujourd'hui.
Alors Patrice Papelard, je vais vous le présenter. Vous êtes directeur des ateliers Frappaz, ici à Villeurbanne. Les ateliers Frappaz, c'est un centre national des arts de la rue et de création contemporaine. Et comme nous, Patrice, vous occupez l'espace public et on va déambuler avec vous dans ce marché populaire. Mais juste avant, je vous emmène dans une friche, derrière les gratte-ciels, là-bas. Hier, j'ai croisé des ados qui faisaient une pièce de théâtre au milieu d'un terrain vague. Et ils étaient avec leur metteur en scène et leur professeur de français. Et tous ces jeunes ados arrivent de l'étranger et apprennent le français en s'amusant grâce au théâtre.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Le spectacle va commencer.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette friche ?
On va préparer un spectacle.
De quoi ça parle ?
La forêt magique de Kopaki.
La forêt magique de Kopaki ?
Oui, on a créé des histoires, notre propre histoire. On va faire le spectacle avec ça.
Et toi, tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Garcia, j'ai 16 ans.
Et tu viens d'où, Garcia ?
Je viens d'Angola, j'habite dans un foyer.
T'habites dans un foyer ?
Oui, je devais sortir de mon pays pour venir ici.
Je voulais partir dans la forêt, me construire une cabane. J'en avais marre du monde, j'en avais marre de tout ce béton. Et là, j'ai découvert la Kopaki. C'est une forêt magique. Il y a des créatures, moitié arbres, moitié humains. Ils racontent plein d'histoires.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Michel. J'ai 15 ans et ça fait 2 ans que j'ai appris le français. C'est un cours spécial pour les personnes qui ne parlent pas français, les allophones.
Donc vous venez tous de pays différents ?
Oui, il y a des Africains, des Américains, des Européens, il y a...
Le monde entier à Villeurbanne ?
Bien sûr.
C'est quelle votre langue ?
Mon langue c'est romani et en romani, copax, ça veut dire arbre.
Michel, tu arrives du Venezuela.
Oui.
T'es venu ici avec tes parents à Villeurbanne ?
Oui, parce que mon père est français, ma mère est vénézuélienne.
Comment tu te sens toi ici, à Villeurbanne ?
Moi je trouve un quartier excellent. Je trouve que la France est un pays libre où il y a ce type de choses culturelles. On peut faire du théâtre. En plus, c'est ouvert à tout le monde. C'est incroyable.
Émerveillement.
Émerveillement.
Samuel Hervé, vous êtes le professeur de français.
Oui, tout à fait.
C'est vous qui apprenez le français à tous ces jeunes petits comédiens, tous ces jeunes gens.
C'est un groupe qu'on appelle d'élèves allophones, qui ne sont pas francophones, dont le français n'est pas la langue native, et qui sont arrivés en France il y a moins d'un an en général. Donc ils sont dans une classe d'accueil pendant un an pour apprendre le français de manière intensive.
Avec le théâtre, ici, là, dans la friche, oui. En plein milieu des immeubles, dans l'espace public, ils ont une approche ludique de la langue.
Exactement. Quand on instaure un peu du jeu théâtral, on se décrispe un petit peu sur la langue, en tout cas c'est l'idée.
Même s'ils ne comprennent pas tout, la musicalité de la langue.
Exactement, et ils rentrent dans la musicalité, dans la prosodie, et en fait ils font du français sans s'en rendre compte. Et le français, ce n'est pas que du vocabulaire, de la grammaire, de la syntaxe. Le français, c'est comme vous dites, de la musique. C'est une musique aussi, comme toute langue. Hein. Et ils rentrent dans la musique de la langue, dans son accentuation, dans, vous voyez,
son rythme.
Dans son rythme, exactement.
Tu es tellement nouveau ici, j'ai découvert de nouvelles choses, comme les types de fleurs. Avant, dans les parcs, je parlais de fleurs. Ici, j'ai découvert leur patinon. L'iris, le pensée, le magnolia. Il y a tellement de couleurs différentes.
Ici, c'est comme si le monde d'avant
était en noir et blanc. J'ai découvert des papillons géants et des oiseaux magiques qui chantent de la musique classique.
C'est beau.
C'est beau.
Tu es le mythe, notre or, le premier.
c'était Pauline Croze, Jour de foule.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
Et vous êtes bien sur France Inter, nous avons rendez-vous place du marché et nous y voilà, Patrice Paplard, nous sommes tous les deux au marché.
Ben oui, un des marchés, Villeurbanne, mais le marché des gratte-ciels, ouais, on pourrait dire plein centre.
On va passer par où ?
Ben là, vers l'alimentaire, c'est un... Voilà, on le voit, hein, c'est un marché très populaire, marché du centre-ville, on trouve un peu de tout. Habits, fringues, et puis voilà, la bouffe, quoi. C'est un plaisir. Moi, quand on a la chance de voyager, nous, donc avec nos boulots, et c'est vrai que moi, la première chose que je fais quand j'arrive dans une ville, je cherche un marché. On gagne du temps pour comprendre un peu la culture du pays, je trouve, et ça marche à chaque fois.
Vous êtes en déambulation permanente, Patrice Paplard, avec votre travail.
Bah ouais, le boulot, c'est quand même tout ce qui est collaboration artistique, et puis pour ramener des choses ici, et puis pour le Centre National des Arts de la Rue et d'Espace Public, c'est obligé d'aller à travers l'Europe. Nous, on travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest.
J'ai vu, vous avez mis votre belle chemise Burkina Faso.
Un cadeau justement d'une couturière d'une compagnie de danse qui est à Bobo-Dioulasso. Magnifique. Alors là, quand on parle de marché, les marchés au Burkina, c'est le centre, hein, comme dans beaucoup d'endroits en Afrique. Voilà, quand on est en train de passer devant le fromage. Ça, faut oublier, hein. Quand on est en Afrique de l'Ouest, ça se garde pas le fromage. Déjà, là, ça calme, on n'en trouve pas. Ce qui est intéressant à la radio, c'est qu'on se fabrique son image. On voit bien les gens dans le marché, on voit les gens, les gamins, les gens âgés, et puis cette France d'aujourd'hui, quoi.
Multiple.
Ouais, c'est ça. Villeurbanne, c'est une vraie réalité. En écoutant des gens que je connaissais pas, on voit bien dans cette émission... que dès qu'on fait parler des gens de Villeurbanne, c'est marrant. Alors, il y a toujours un attachement au territoire. La jeune dame historienne qui dit, voilà, on peut venir de toute la métropole parce qu'on a envie d'aller boire un pot au gratte-ciel. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui. Moi, je le vois beaucoup par les artistes. On accueille, nous, quand même, des artistes toute l'année, hein, des compagnies toute l'année. Et il se passe très souvent quelque chose avec les artistes qui disent, putain, mais cette ville, il y a un truc dingue ici, il y a un truc qu'on sent.
On le voit là, on est au milieu des gratte-ciels.
Ouais, ouais.
C'est une vision un peu strange. Hein.
Ouais, c'est ça, strange, ouais. Bah ouais, parce qu'on n'est pas habitué. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds ici, parce que je ne suis pas originaire d'ici, je me suis posé au milieu, mais j'étais paumé, quoi.
Ça vous a fait quel effet ?
J'avais l'impression d'être dans un décor. Hein. Il y a la curiosité d'apprendre, et puis chaque fois qu'on creuse, et j'étais passionné encore par cette jeune thésarde, on dit ça.
Aliénor Wagner.
Voilà, les gens qui préparent des thèses. Voilà, elle m'apprend encore des choses. Moi, à chaque fois, on apprend des choses sur cette histoire et tout est cohérent dans cette histoire-là. C'est fou, hein. C'est cette vision d'avenir. Et on dit souvent, nous, dans la rue, aux artistes, que c'est la ville qui est notre décor. Vous imaginez le pied pour pas mal de compagnies de théâtre qui viennent jouer dans cet univers-là ou à l'intérieur. C'est fascinant. Il y a énormément d'artistes sont attirés de venir travailler dans cet univers. Si vous revenez entre le 15 et le 18 septembre sur cette place, les gens se réveilleront à 9h du matin avec trois chevaux et une écuyère qui va commencer à raconter une histoire sur toute la place ici. Ouais, c'est notre décor, c'est notre lieu de travail, notre lieu d'expression. Ouais.
On va à droite ou à gauche ?
Ouais, j'irai plutôt à gauche, par là.
Par
toujours
là-bas.
À gauche à Villeurbanne, hein, c'est pour ça.
Toujours à gauche à Villeurbanne.
Donc c'est ça qu'il faut faire aussi.
Alors ça fait plaisir de travailler sur le marché, de voir des gens... Ça fait plaisir, on revit la liberté de respirer. Est-ce que vous avez une question sur je puisse répondre.
Oui. Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Ugur. Actuellement, je suis un bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques. Et les week-ends, j'aide ma famille. Donc, je travaille 7 jours 7. Pour moi, il n'y a pas de repos. J'ai jamais connu ça. Avec mes parents, mon père, ma mère, mes deux petits frères. Voilà, tout en famille.
Venez, ils sont super sympathiques, ça fait plaisir de voir des vendeurs comme ça au gratte-ciel.
Venez au marché de gratte-ciel.
Ça a l'air délicieux.
Exactement, bah comme vous voyez, je vends des fruits et légumes, des melons, des abricots, des fraises, mais j'ai tout fini. Parce que je suis un bon vendeur. Eh oui.
Toujours avec le sourire, ça fait plaisir de voir des vendeurs avec le sourire.
Vous êtes cliente, madame.
Moi, je suis cliente. Je suis venue pour acheter une bricole. J'ai acheté beaucoup.
Vous habitez où ?
Moi, j'habite à Nice. Je suis venue voir ma sœur à Villeurbanne.
Votre sœur, elle habite Villeurbanne ?
Oui, Villeurbanne.
Vous aimez bien venir ici ?
Ah, j'adore. J'adore Villeurbanne. Quand j'arrive, je suis dans les marchés. Chez moi, je ne fais pas les marchés, mais quand j'arrive à Villeurbanne, marché absolument.
Marché absolument. Vous allez faire quoi à manger ?
À manger, on va manger ivoirien, à checker poisson.
Oui, oui, oui. Oui.
C'est
quoi ?
C'est de la semoule fermentée et après pré-cuit. Et avec du poisson frit, avec de la tomate à côté, des oignons, des légumes. C'est très bon.
Au revoir, Martha. Merci, Martha.
À bientôt. Au revoir.
Et bon marché.
Et gardez votre sourire. Ça fait plaisir aussi de voir des comment on appelle ça, des journalistes avec le sourire. Et il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut sourire. La vie est belle. Sur ces phrases, sur ces mots, je vous dis à bientôt.
Allez, c'est là.
Sont bonnes. Vous avez goûté les cerises, Patrice ?
Non, j'ai acheté les abricots, là.
Capitale de la culture, Villeurbanne.
Alors, en plus, 2022, capitale française de la culture, parce que les gens pensaient que c'était capitale européenne, mais capitale française de la culture. Ben oui, c'est un nouveau label. Voilà, la mairie met en place avec toutes les artistes, toutes les structures villeurbanaises. C'est un problème de proximité, c'est une réappropriation aussi... de la culture dès le plus jeune âge, dans les écoles, etc. Et puis, ça va être un ensemble, effectivement, de manifestations très visibles.
Et là, au milieu de ce marché, on entend de la musique.
Ben oui, on entend de la musique. Discutez avec eux tout à l'heure, oui. Ben, ils sont à l'École nationale de musique, qui est aussi l'École nationale de musique de Villeurbanne, qui est ce qu'on appelait peut-être à l'époque l'anticonservatoire.
L'anticonservatoire. À Lyon, on a le Conservatoire national supérieur.
Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'après, c'est des mots, il n'y a pas d'antinomie. Je pense que c'est le projet politique qui s'est bâti dans les années 80 autour de l'école de musique.
Je vais aller les voir.
Ouais, je suis assez fasciné par le oud, moi, personnellement.
Ouais, il y a deux ouds et un canoun.
Ouais, ben voilà, ouais, c'est beau.
Et vous avez eu un groupe de rock, Patrice, quand vous étiez plus jeune.
Ouais, ouais, en 80. Putain,
j'ai ça. Vous avez eu un groupe. Comment il s'appelait ?
Tachycardie, ça a duré 2 ans. Ouais, ouais. C'était à Clermont-Ferrand. Parce que j'étais à Clermont, là, à l'époque. Ouais. Ville du rock, Clermont. C'est ma deuxième ville de cœur avec Villeurbanne.
Vous avez fait la première partie d'Iron Maiden ?
Oui, absolument. Dans un palais des sports. Ouais, ben bah, on faisait ça. On faisait ça pour s'éclater, nous.
Ça joue pas mal ici, dites-moi.
Ça joue un peu, ouais. Ça joue un peu au soleil.
Vous, c'est Baptiste.
Baptiste, des fois on m'appelle Bachir, mais ça mes parents ne le savent pas encore.
Baptiste,
donc,
alias Bachir, très important. On vient de l'École nationale de musique de Villeurbanne, oui. On s'est inscrit la même année.
Patrice Paplard nous disait que l'ENM, c'était l'anticonservatoire un peu.
Ouais, c'est possible, je pense.
C'est vrai que... on a des possibilités à l'École nationale de musique qui sont pas forcément les mêmes que dans certains conservatoires. Par exemple, un musicien qui a appris sur le tas aussi, il peut être accepté dans une école comme l'École nationale de musique sans savoir forcément lire les notes, sans avoir forcément une formation gamin dans un conservatoire. C'est quelque chose de génial, en fait, la possibilité que cette école-là nous ouvre, parce que certains amateurs peuvent devenir professionnels dans cette école. Les profs qui sont géniaux. En fait, c'est pas quelque chose de que scolaire. C'est ça qui est génial à l'ENM, c'est qu'on n'est pas dans un cadre uniquement scolaire.
D'improvisation, j'ai l'impression aussi qu'il y a de la liberté, une forme de liberté de composition, des manières de jouer.
Complètement. Bah, y a justement, c'est ce côté-là qui est anti-conservatoire, c'est justement le fait qu'on n'est pas dans l'élitisme, en fait. On n'est pas dans l'élitisme que le conservatoire peut avoir de temps en temps, même pas... Il y a de l'exigence.
Oui, c'est ça, il y a un bon niveau quand même, on va l'entendre dans pas longtemps.
Bien sûr.
Vous venez d'où tous les deux ?
Alors, moi, je suis franco-libanais.
Vous êtes franco-libanais aussi ?
Je ne suis pas franco-libanais. J'avais un grand-père portugais. Je ne crois pas que c'est ce qui m'a amené dans la musique orientale, mais peut-être.
Et vous tenez votre oud entre les bras, comme ça, comme un camarade ?
Oui, alors c'est un instrument qui inspire le câlin, je trouve.
Oui.
On peut se reposer sur lui, il peut se reposer sur nous.
Ouais. On peut limite dormir avec moi. Ça m'arrive de monde parfois sur le canapé, de m'endormir, tu sais, avec cette fameuse position où tu es avec et tu poses la tête un peu comme ça et puis tu te retrouves à pouvoir t'endormir facilement avec ton instrument. Donc ça, c'est l'avantage du oud, c'est que c'est un corps...
C'est beau, c'est un corps rond, chaud.
C'est ça, exactement, c'est tout ce qu'on aime. C'est le son qu'on aime, c'est la rondeur et c'est le chaud.
Vous allez faire de la musique comme ça, au milieu du marché, au pied des gratte-ciels. C'est beau ?
Ouais. Ça nous arrive souvent, en fait, de nous retrouver et simplement jouer.
Et puis, le public nous demande... très rapidement des morceaux et puis nous on suit et on enchaîne et ils nous font jouer et on s'entraîne avec eux, c'est ça qui est génial. Donc on adore ça.
Qu'est-ce que vous allez jouer?
On va jouer un petit morceau en bayati qui s'appelle Ah ya hello, Ô toi le beau.
Ô toi le beau.
Ô toi le beau, exactement.
On vous écoute.
Je me défenestrerai pour toi.
Oh dis donc, je me défenestrerai pour toi.
Depuis les gratte-ciels. Depuis les gratte-ciels directement.
Ça fait vraiment haut.
يا ريتني ضل ويا عيني عاش الجمال والحسن ده كل ومن الشباك لارمي لك حالي 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 يا عين من كتر خوف عليك ما بنا
Merci.
Avec grand plaisir. C'était vraiment un grand plaisir.
Dans le vent, dans le soleil.
Ouais, si, face au gratte-ciel, ouais.
Je vais vous laisser.
Bah, ça marche. On va continuer à faire de la musique, du coup. Et bien, bisous. Continuez bien sur le marché à déambuler.
Alors là, on continue. On est sortis du marché. On continue à déambuler tous les deux, Patrice Paplard, sur cette avenue Henri Barbusse.
Voilà.
Et dites-moi, avant de vous occuper des ateliers Frappaz,
ouais.
Avant de créer des spectacles de rue,
ouais.
Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie?
Si on dit professionnellement, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie? Moi, je suis infirmier et je garde mon diplôme à vie. J'ai travaillé d'abord en réanimation traumatique. Et puis, bah, c'était l'époque où on commençait à intégrer des diplômés d'État dans les SAMU.
Quelque part, vous soignez les gens aussi?
Ah non,
la culture.
Soigner, je ne sais pas, mais en tous les cas, s'il y a un lien, oui, je le sais, puis il ne faut pas se le cacher, c'est d'aimer les humains.
Cet espace public, c'est votre terrain de jeu.
On peut tout faire
dans la rue.
Alors attention, on aimerait pouvoir tout faire. Après, l'espace public, c'est l'autorisation de l'occupation et c'est les commissions de sécurité et c'est très compliqué. On est encore à post-Covid, pas totalement libéré de s'exprimer totalement librement dans l'espace public. C'est pas encore là. Hein. La culture qui se passe en espace public est aussi importante que de manger, de dormir, etc.
De se soigner.
Se soigner, ouais. Mais c'est ça, hein, quand même, le fond du problème. C'est que...
C'est ça. C'est politique, Patrice Paplard, de faire de l'art. dans l'espace public.
Ah oui, oui, oui. Puis alors là-dessus, je ne peux que dire par bravo, bravo aux différentes équipes de la mairie de Villeurbanne et des anciens maires, le nouveau maire, parce qu'on est dans une ville où la culture fait partie des gènes de cette ville-là. Enfin, c'est pas pour rien. Quand on parlait tout à l'heure des gratte-ciels, de la construction, derrière, il y a quand même un théâtre qui se montre en même temps que du logement. On pense à l'ouvrier qui vit dans quelque chose de moderne, mais on lui met un théâtre aussi, parce que l'ouvrier doit se cultiver. Et ça, ça fait partie aussi de l'hygiène.
C'est l'infirmier urgentiste qui nous parle. C'est marrant parce que cette ville, elle a été pensée par un médecin.
Ouais.
Et puis vous, aujourd'hui, ancien infirmier,
Mais je
vous êtes là aussi.
Vous savez quand même, on n'en a pas parlé, moi j'ai travaillé dans les gratte-ciels. C'est quand même un des premiers habitats sociaux où on a les toilettes et la douche à l'intérieur d'un appartement. C'est-à-dire qu'avant 34, les douches ou la baignoire est collective. Quand on se remet en 1934, c'est un truc de fou.
Justement, Patrice Paplard, on est devant un immeuble de ces gratte-ciels. On est devant le numéro 7.
Oui, au 7.
Et on est attendu chez Luc Royer. Donc on va monter dans cet immeuble.
D'accord.
Le temps d'un disque.
Ok, super.
On va écouter Clou. Vous connaissez Clou ?
Un petit peu, ouais.
Ça s'appelle Si c'était moi.
Parfait, Si c'était moi.
On l'écoute et d'accord. On se retrouve à l'intérieur de chez Luc.
Ok, super.
Tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Si t'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça, si t'étais moi. Si t'étais moi, tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Si t'étais moi, facile de lâcher des mots, aisé de regarder l'heure et de moquer mes nombreuses erreurs, aisé de rabaisser mes valeurs, aisé de casser mon cœur. Tu ferais quoi, tu ferais quoi, tu ferais quoi, si t'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça, si t'étais.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
Bonjour Luc Royer.
Bonjour.
On est au numéro 7 ici, on est dans le hall de votre immeuble.
Voilà.
Déjà, quand on arrive dans le hall, On voit la beauté Art déco, on peut admirer les verrières.
Voilà, vous pouvez admirer les verrières qui sont vraiment d'époque. Hein.
On monte, Luc.
Allez.
On prend l'ascenseur.
Oui, qui est restreint. Mais il y avait des grilles.
On est arrivé, quel étage ?
8e.
On rentre chez vous, Luc. Vous avez fait le ménage ?
Oui, attention, hein. J'ai essayé.
C'est un privilège de rentrer chez vous, merci beaucoup.
Ah ben merci. Là, le carrelage d'époque, il est là. Le vrai de vrai, c'est celui-là.
Il est dans la salle de bain.
C'est celui-là, le rouge et blanc. Est-ce que vous voulez juste partager un petit truc sur un jardin suspendu au gratte-ciel ? On vit en promiscuité avec ses voisins.
Ça veut dire que cette grande terrasse,
elle est partagée.
Elle est partagée directement avec votre voisine Maggie qui n'est pas là.
Voilà.
Et donc vous partagez les plantes, l'arrosage, le barbecue.
On partage tout.
Faut bien s'entendre. Hein.
Mais je pense que c'est quand même important de vivre ce moment-là et puis se vivre ce lieu-là quand même.
Patrice, vous nous laissez là-haut ?
Ouais, merci.
C'est moi qui vous remercie.
À tout bientôt. C'est chouette à chaque fois de monter ici. Vraiment, c'est vrai, hein, c'est une drôle de sensation.
C'est agréable d'arriver au gratte-ciel, mais c'est très difficile d'en repartir.
Là, on est sur cette terrasse, il y a quand même une vue.
C'est une vue à 180 degrés sur les gratte-ciels, quand même. Les Champs-Élysées de Villeurbanne, c'est l'avenue Henri Barbusse.
Et en face, le beffroi de la mairie. Le beffroi de la mairie qui serait la tour Eiffel de Villeurbanne.
Qui fait la tour Eiffel de Villeurbanne.
Qu'est-ce qui est mieux, Villeurbanne ou Lyon ?
Je ne suis pas le 10e arrondissement de Lyon. D'accord ? Je ne vis pas dans le 10e arrondissement de Lyon.
Okay, je vis
à Villeurbanne. Bon, voilà, vous avez la réponse à votre question. Et il y a une identité villeurbanaise. Je pense que Villeurbanne était une ville sociale à l'époque. Et il faut que ça reste social.
Voilà.
Ah bah oui, c'est obligatoire. Hein. Je pense que Lyon était la ville un peu bourgeoise de l'époque. Mais Villeurbanne reste... Il faut qu'elle reste une ville sociale et qui accueille tout le monde.
Les gratte-cielleux, le gratte-ciellois.
Voilà, c'est ça, ouais.
La gratte-cielloise.
Ou la gratte-cielloise. Mais la gratte-cielloise, ça fait un peu...
Ça fait un peu la villageoise.
La villageoise, oui. Mais après, pourquoi pas ? Parce que la villageoise, les gratte-ciels sont un village.
Un village vertical.
Qui peut impressionner avec la mairie, surtout. Parce que la mairie est quand même impressionnante.
Ah, ouais.
Elle fait un peu peur.
Elle fait un peu peur.
Voilà. C'est Staline, un peu. Hein. Ça fait le pays de l'Est.
C'est clair. Là, on passe par la cuisine. Vous vivez dans un musée ou vous vivez dans un appart ?
Oh bah non, je vis dans un appart quand même. Mais oui, pourquoi pas un petit musée quand même.
Donc vous nous avez préparé un petit apéro, très sympa.
Bah oui, bah c'est normal, on reçoit des gens, on reçoit très bien au gratte-ciel. Et ben pendant le confinement, on a fait des apéros et on se faisait les apéros aux fenêtres. Et toi aussi d'ailleurs, tu as participé
bien sûr.
Carole Zidi, vous êtes assise au milieu des plantes sur la terrasse de Luc. Vous êtes une plante.
Merci, c'est gentil.
Parmi les plantes. Mais vous n'êtes pas une plante verte, vous êtes une fleur.
Ah, c'est gentil, merci.
Vous êtes, comment on dit ? On dit gardienne d'immeuble ? Non.
Responsable d'immeuble. Voilà, responsable d'immeuble.
Quand on est responsable d'immeuble ici au gratte-ciel, il faut veiller à ce patrimoine.
Eh bien oui, c'est normal, on y habite.
Votre rôle, c'est l'entretien, mais c'est aussi de prendre soin. De vos locataires.
Voilà, de veiller au bien-être de nos locataires, être vigilant. On a beaucoup de personnes âgées au gratte-ciel. Ouais. Mon téléphone est toujours allumé, même quand je ne travaille pas, même le week-end. J'écoute toujours les messages. En cas où il y ait une urgence, ils peuvent compter sur moi. Il y a des mamies qui sont toutes seules, donc on ne peut pas faire comme si... Bah non, aujourd'hui je ne travaille pas, c'est dimanche. Mamie t'attendra lundi.
Vous apportez des médicaments ?
Médicaments, je leur dis des fois si vous avez besoin d'une petite course, vous m'appelez, j'y vais. Ils ne veulent pas déranger, mais moi ça ne me dérange pas. On y passera tous un jour et on aimerait bien que quelqu'un vienne nous aider quand on aura besoin.
Et si jamais quelqu'un ne respecte pas les lieux, qu'est-ce qui se passe ?
Si je sais qui c'est, il aura affaire à moi. Squatter la cage d'escalier, je les sors. Quand je vois quelqu'un qui jette sur les terrasses, je leur ramène jusqu'à devant leur porte et je leur dis c'est à vous, c'est tombé par la fenêtre. Il file droit, moi, avec moi, les locataires.
Vous êtes heureuse, quoi.
Oui, ça va, moi, je me sens bien au gratte-ciel. Je suis dans mon élément.
Nous, on va devoir partir des gratte-ciels.
Mais moi aussi, j'ai mes petits-enfants qui m'attendent.
À quoi on trinque, chers amis ? Luc, approchez-vous un peu.
Au gratte-ciel.
Au gratte-ciel ?
Au gratte-ciel, ouais.
Au gratte-ciel.
La promiscuité, elle est au contact avec les gens, je pense.
Et elle était. Et puis, bon, il y en a. On a une liste, hein, si vous voulez.
Et à France Inter.
Et à France Inter, bien sûr.
Gratiellois, gratielloises, merci à tous et à très bientôt sur France Inter ou ailleurs. C'est Benoît Thuot qui a réalisé cette émission. C'est Marion Philippe qui a préparé cette émission avec l'aide de notre stagiaire Julien Martin. La programmation musicale est signée Djoubaka et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouverez Antoine Lee en Martinique, à Fort-de-France. Après les informations, c'est à vous Camille Crenier pour le débat de midi. Bonjour Camille, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Bonjour Aurélie, aujourd'hui au programme c'est la finance verte, illusion ou pas ? À tout de suite.